Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Il avait traduit la Bible et sa traduction avait fait date. Mort le 8 avril 2009, professeur de linguistique à l'université Paris 8 et essayiste, Henri Méchonic était avant tout un poète, poète que Francesca Isidori recevait le 16 septembre 2004 pour « Affinités électives ».
Affinités électives, une émission de Francesca Isidori. Et si je vous disais que mon invité d'aujourd'hui est un Apax, pas un Apache, encore que, non, je dis bien un Apax, vous iriez chercher dans le lexique des termes littéraires et vous trouveriez qu'on désigne par ce terme un mot dont on ne trouve qu'une seule occurrence dans le corpus d'un texte ou dans une langue. Autrement dit, un oiseau rare. Poète, traducteur de la Bible, linguiste, depuis plus de 30 ans, il construit, en liant intimement ces trois activités, une œuvre multiple, foisonnante et obstinément cohérente. Une œuvre décapante aussi, qui postule comme seul credo la nécessité du contre pour penser, quitte à passer souvent pour un troublion ou un mauvais coucheur. Cavalier seul, toujours, hérétique qui a fait sien ce mot de Mandelstam, dans la poésie, c'est toujours la guerre. Les pacifistes du verbe en savent quelque chose. Les affinités électives d'Henri Méchonic. Bonjour Henri Méchonic.
Bonjour Francesca.
Alors, d'être accueilli comme un Apax, qu'est-ce que ça vous fait?
Ça me fait penser qu'en allemand, on appelle ça unicum. Un unicum, c'est un individu bizarre qui, comme son nom l'indique, est unique. Mais enfin, nous sommes tous uniques.
Enfin, il y en a qui sont plus uniques que d'autres. Henri Méchonic. Alors, on a commencé cette émission par cette musique qu'on vient d'entendre. C'est Max Roach, Drums Unlimited. Et le morceau s'intitule The Drum Also Waltzes. Et pourquoi cette musique, pourquoi ce choix pour commencer? Enfin, j'entends bien là un rythme auquel vous devez être sensible.
Eh bien voilà, vous l'avez dit, vous avez tout dit. C'est avant tout des rythmes. Et ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, mais j'ai toujours beaucoup aimé Max Roach. Et je suis heureux comme tout de commencer notre entretien avec Max Roach. Parce que c'est du rythme à l'état pur. En un sens, il n'y a pas de mélodie.
Mm-hmm. Ouais. Et on reviendra à cette question du rythme, évidemment, oui. avec la traduction.
Oui.
Henri Méchonic, alors, la photo.
Alors, vous m'avez obligé à un exercice d'un narcissisme indécent, et j'ai retrouvé effectivement une photo de passeport du 20 juillet 1950. J'ai pas tout à fait 18 ans. Mais je ne peux pas ne pas me rendre compte que, revoyant cette photo, c'est évidemment avec mes yeux de maintenant que je la regarde. Il m'est un peu difficile de savoir, de bien me rappeler à quoi je pensais, ce que je sentais quand j'avais 17-18 ans. Sinon, que j'ai quand même des souvenirs qui m'ont fortement marqué, dont j'ai encore conscience maintenant. Ça, c'est le sens de continuité qu'on a dans une vie.
Ça, c'est aussi un mot sur lequel on reviendra, le continu.
Et oui, avec son enfance, son adolescence. Et après, je ne sais plus qui a dit qu'une vie réussie, ça consiste à réaliser les rêves de sa jeunesse.
Et vous avez l'impression d'y être arrivé ?
Non, mais je suis en train. Je n'arrête pas d'essayer.
Ah non, le chantier est ouvert.
Voilà, c'est un chantier ouvert, absolument. Travaux en cours. Travaux en cours, immédiatement, ça me replonge dans le surréalisme. Et effectivement, je crois que ce que je lisais à cette époque... À part que je suis tombé, mais alors vraiment tombé dans un été où j'apprenais très tard le latin après une scolarité entre guillemets de moderne, et pour entrer en seconde j'avais fait du latin comme ça en 3 mois, et je suis tombé dans Lucrèce et je n'en suis pas sorti. Ça m'a, c'est-à-dire que j'ai pris le De Rerum Natura, le poème de la nature, et je l'ai lu d'un morceau. Et alors, il y a trois, dans ce même été, j'ai eu trois lectures qui continuent de me suivre. C'est le De Rerum Natura, que je lisais en latin et en traduction, évidemment. Et c'est Les Tragiques d'Agrippa Dominier. Et c'est Ève de Peggy aussi que j'ai avalé comme ça d'un morceau. Ou plutôt, c'est le poème qui m'a avalé.
Henri Méchonic, d'ailleurs, si on vous demande quelle est votre religion, vous répondez volontiers, je suis lucrécien.
Oui, je suis lucrécien. Alors, ce qui fait de moi un apax, évidemment. J'ai quand même mis précisément comme épigraphe à un livre qui doit sortir en octobre chez Bayard, Un coup de Bible dans la philosophie, une petite phrase de Ernst Bloch qui dit « Penser, c'est dépasser. Le meilleur dans la religion, c'est qu'elle produit des hérétiques. » Alors, effectivement... Et bizarrement d'ailleurs, c'est le travail depuis des années, interrompu mais en même temps continu depuis plus de 30 ans, plus que ça. J'ai commencé à traduire la Bible vers 1968, alors c'est évidemment très interrompu et fragmentaire, mais ça fait donc des années que j'y réfléchis.
Mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Là, vous sautez des étapes, vous allez trop vite.
Bien sûr.
Je voudrais qu'on reste un peu avec Lucrèce, parce que j'ai vu...
Mais justement, ça fait des sortes de mouvements étranges, de retour sur un passé... qui font que j'ai pris conscience récemment, puisque on a dit que j'étais lucrécien, retour sur des choses que je viens de comprendre vraiment en traduisant par exemple la Genèse, sous le titre au commencement, et en ayant travaillé aussi sur Spinoza, et tout ça, je dirais pas que ça se mélange, mais ça fait une étrange composition où je me fais. Voilà, je me fais à travers ça. Ce qui répond tout à fait à votre intitulé des affinités électives. Électives, pas au sens où nous les choisissons. Je crois que c'est nous qui sommes choisis. Et donc, en ce sens, autant je pense qu'on ne fait pas un poème, mais c'est le poème qui vous fait. Certaines lectures très fortes, c'est elles qui vous font, plus que vous ne les faites comme lecteur. Et donc, voilà, ça se mélange, Lucrèce et Spinoza. Et alors, je suis obligé de faire des courts-circuits comme ça.
Mais je vous encourage à faire des courts-circuits.
N'est-ce pas? Voilà. Pourquoi j'ai fait un livre sur Spinoza? Je ne suis pas philosophe. Normalement, il n'y a que les philosophes qui écrivent sur Spinoza. Et je suis tombé sur une phrase d'un spécialiste, Yirmiyahu Yovel, qui, dans un livre Spinoza et autres hérétiques, a dit, Ce qui m'a fait circuler le sang trois fois plus vite que d'habitude, plutôt que de dire mon sang n'a fait qu'un tour. Spinoza écrivait en latin, donc il n'a aucune langue. Et je me suis collé dans Spinoza, et là je me suis rendu compte en
c'est
le
cette
lisant,
phrase-là qui vous a incité à vous plonger dans Spinoza.
Oui, c'était une provocation complète, à la fois pour démolir un cliché, parce que mon plus grand plaisir, c'est de me battre avec des idées reçues. C'est en ce sens, je me dirais un disciple de Rémy de Gourmont, la dissociation d'idées. Voyez, dissocier les idées, c'est un exercice de gymnastique salutaire. Et donc, contrairement à l'idée que le latin est une langue morte, je me dis, mais s'il y a des gens qui inventent leur pensée, c'est-à-dire qui s'inventent au XVIIe siècle en latin, comme Descartes, Hobbes, Spinoza ou Leibniz, eh bien Spinoza, il s'invente en latin. Eh bien, qu'est-ce que je trouve dans le latin de Spinoza dans l'éthique? À plusieurs reprises, ce qui est un véritable signe de langage codé, de rerum natura, il le dit à plusieurs reprises, ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. Et ce que j'ai compris, mais c'est, je ne dis pas que je suis nécessairement un bon lecteur de Spinoza, mais c'est cette lecture qui me fait un choc profond, c'est que quand Spinoza a dit « Deus sive natura »,« natura » au sens très fort du latin, où c'est la puissance créatrice qui donne naissance, c'est pas le printemps, les petits oiseaux, les fleurs, je retrouve du Lucrèce à travers Spinoza, et je m'y retrouve. Ouais.
Ah oui, mais Chenic, j'ai vu justement l'autre jour, quand on s'est rencontrés pour préparer un peu cette émission, j'ai vu votre exemplaire du De Rerum Natura de Lucrèce. Il était noirci de notes, de notes au crayon.
Oui.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez apporté aujourd'hui.
Je n'ai pas apporté tout, mais j'ai apporté un petit passage. Voilà, c'est un passage que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, on ne va pas transformer cette rencontre en cours de littérature, ni en anthologie non plus, mais il y a un passage vers le début du chant 1 où Lucrèce raconte le massacre d'Iphigénie pour que la flotte ait bon vent, et ça se termine par « Tantum religio potuit suadere malorum »« Tant la religion put conseiller de crime » c'est la traduction des éditions des Belles Lettres. D'une certaine façon, on pourrait aussi traduire sur un autre mode « Quelle saloperie la religion hein, » au sens que l'autre disait « Quelle saloperie la guerre » et en même temps, alors il y a du poème sans arrêt. Elle est casta inceste, c'est-à-dire elle est restée chaste, mais d'une manière incestueuse, c'est-à-dire en fait indécente, laissée vierge criminellement, dit la traduction des Belles Lettres, muette d'effroi, c'est muta metu. Autrement dit, tout le consonantisme qui est une découverte du XXe siècle, une découverte aussi bien chez Claudel que chez certains poètes russes futuristes comme Khlebnikov ou d'autres, et ben c'est déjà là-dedans. Muta metu, et c'est-à-dire toute la sémantique sérielle, tout ce qui me semble faire le poème de la pensée. Et donc, immédiatement, apparemment, on saute à maintenant, forcément, c'est-à-dire un combat contre le signe. J'avais écrit, ou plutôt publié en 75 chez Gallimard, un livre que j'appelais « Le signe et le poème », c'est toujours le combat du signe contre le poème. Alors, pour plaisanter, ou parce que je suis un optimiste, je dirais c'est le combat de David et Goliath. David, le poème, évidemment, mais c'est Goliath qui règne. Voilà, Goliath.
Mais c'est David qui gagne, qui finit par gagner, qui devrait, normalement.
Disons qu'il gagnera un jour, oui.
Henri Méchenic, alors, on fait un pas en arrière, on regarde encore un instant ce passeport. Est-ce que l'adresse qui figure sur ce passeport est l'adresse parisienne où vous êtes né aussi ou...
Non, c'est une adresse du 15e arrondissement, 239 rue Saint-Charles. C'est là que mes parents et moi sommes revenus en 45 après la guerre, après l'exode, après la traque des nazis, etc. Voilà. Non, c'est pas là que je suis né. Moi, je suis un enfant du 14e.
Un enfant du 14e. Donc, vous étiez enfant unique, je crois. Enfant unique.
Oui, je suis fils unique. Ouais.
De parents qui étaient arrivés de Russie dans les années 20.
C'est ça. Mon père en 24, ma mère en 28, et ils se sont connus à Paris tout en étant de la même ville, Kishinev, qui était la capitale de la Bessarabie, qui s'appelle la Moldavie maintenant. Oui.
Et Harry Mechonik, chez vous, on parlait le russe, le yiddish, le français.
C'est ça, oui.
Trois mélangés.
Je suis trilingue, oui, d'origine, oui. Oui.
Et quel rapport vous aviez avec chacune de ces langues?
D'abord, mes parents parlaient russe pour que je ne comprenne pas. Mm-hmm. Ma mère était couturière, j'étais élevée par une voisine, très très vieille dame, dont le mari avait été communard, et qui me nourrissait avec Mickey et un biscuit trempé dans du vin rouge quand j'avais 4 ans. C'est ma Madeleine à moi. Alors, ces langues étaient un peu séparées, et puis je les connaissais comme un enfant. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai vraiment voulu lire Dostoïevski en russe et j'ai fait du russe pendant un an, comme ça, tout seul. Finalement, je suis un autodidacte, en réalité, de toutes ces langues. Oui.
Et le yiddish, vous l'avez appris ?
Oh bah, je l'ai appris, je ne l'ai pas appris.
On le parlait à la maison.
Voilà, c'est ça, oui. Je le savais sans l'avoir appris.
Et votre mère, vous me disiez, hors micro, avant qu'on commence l'émission, vous me disiez, elle parlait yiddish avec ses clientes. Et puis, de temps en temps, il y avait un mot en français
oui,
qui...
Oui, c'est ça, oui, ça me gênait beaucoup quand j'étais adolescent, qu'elle parlait comme ça fort dans le métro. Oui. Mais c'est une langue étrange. Les spécialistes parle de langue de fusion, ce qui m'a toujours semblé bizarre, parce que toutes les langues sont des créoles, sont des langues de fusion, le français comme les autres. C'est une langue très avantageuse, parce que, sans le savoir, j'étais d'avance par cette langue, à la fois un petit peu déjà dans l'allemand, et puis dans l'hébreu. Si bien que, apprenant l'hébreu très tard, en autodidacte aussi, entre 20 et 27 ans, mais vraiment à 27 ans, j'avais le plaisir complètement affectif de retrouver des mots que je ne savais pas que je savais. Simplement qu'en yiddish, ils étaient mal prononcés, ou plutôt ils étaient prononcés avec les particularités de la prononciation ashkénaze. Oui. Down by the riverside, oh. Down by the riverside, yeah. Down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, I'm gonna study.
Louis Armstrong, Down by the Riverside, Henri Méchonique. À quel âge vous écoutiez Armstrong?
Oh, je ne sais pas quand j'ai commencé à écouter ça. Ça m'a accompagné des années et des années. Je ne peux pas dater. Non, c'est aussi du continu.
Henri Méchonique, vers l'âge de 16 ans, je crois, vous commencez à écrire des poèmes.
Oh, bah, comme tout le monde. Hein,
si comme tout le monde.
Absolument comme tout le monde. Oui.
Ils ressemblaient à quoi, ces poèmes? Vous les avez gardés?
Ah oui, j'ai gardé ça, oui. Je suis un archiviste. Eh bien, je vais pas, je me rends compte que je vais faire une comparaison grandiloquente. Victor Hugo avait un cahier où il avait mis comme titre « Les bêtises que je faisais avant d'être né ». C'est un peu comparable, toute proportion gardée.
Mais qu'est-ce qui vous avait donné envie d'écrire de la poésie? Le fait de lire de la poésie,
c'est vrai qu'il y avait des lectures que j'ai évoquées là, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est certainement d'une émotion profonde que surgit le désir d'écrire des poèmes, y compris chez tous les adolescents, ou pratiquement. Le problème, pour que ce soit des poèmes, parce que là, il n'y a aucune prétention, évidemment, et pour que ça devienne des poèmes, c'est qu'il faut petit à petit devenir un sujet. Et ça, c'est une chose aussi qui est de l'ordre du continu et qui se fait aussi bien à travers la vie qu'à travers la lecture. Lire des poèmes, écrire des poèmes, ça ne s'oppose pas à la vie.
Ce sont des activités très, oui, très liées entre elles, non?
Ben oui, ça fait partie de vivre. Oui. Et ça fait partie des émotions fortes qu'on a, sans confondre pour autant, ça on y viendra peut-être, les émotions avec la poésie. Mais une poésie qui vient, qu'on écrirait et qui viendrait uniquement du fait de lire, courrait beaucoup le risque de n'être que une sorte de pas limitation, quoi. Voilà. Non, pour moi, la poésie commence vraiment après toutes ces ébauches, où en fait on s'ébauche soi-même. Ça vient c'est beaucoup plus tardif pour moi. Ça vient de l'expérience que j'ai eue, là aussi, que je ne suis pas seul à avoir eue pendant la guerre d'Algérie. C'était en 60. J'y suis resté 8 mois. Au cours de 2 ans d'armée, et effectivement les premiers poèmes que j'ai publiés en 62 dans la revue Europe s'appelaient Poèmes d'Algérie. Oui, c'est mes premiers poèmes publiés. Je les ai jamais repris en livre d'ailleurs, c'est un peu différent. Après c'est autre chose que je me suis mis à écrire, mais poétiquement je commence là. Mmh. Et pas dans ce que j'écrivais quand j'avais 16 ans, évidemment.
Et si je ne me trompe pas, à 17 ans, vous êtes allé voir Aragon.
Oui, c'est vrai que...
Comment ça s'est passé?
Vous savez,
il était encourageant?
c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça vient de mes lectures d'époque, hein, vers 1950. Qu'est-ce que je lisais comme poésie contemporaine? Je lisais les surréalistes. C'est-à-dire, je lisais Desnos, Aragon, Éluard, et les dadaïstes, et Prévert, et d'autres. Et tout de suite après la guerre, je crois que ça avait commencé vers 1949. Je pense que oui, c'est en 49 que je suis allé voir Aragon. J'aurais pu aller voir quelqu'un d'autre, j'aurais pu aller voir Éluard, par exemple. Ben non, c'est Aragon que je suis allé voir. Et aller voir comment.
Mais comment vous avez fait?
Eh bien,
vous avez pris,
c'est que il y avait dans un superbe immeuble qui est pas loin de l'Élysée, tous les samedis après-midi, les écrivains recevaient le public. Moi, bravement, c'est-à-dire avec une inconscience complète, je suis allé trouver Aragon parce que je lisais les lettres françaises, voilà. C'est pour ça que j'étais psychologiquement dirigé, tourné vers Aragon. Et ce qui est incroyable, c'est que ce monsieur, grand monsieur quand même, il accueille un petit jeune de 17 ans qui lui apporte ses poèmes comme ça, écrit à la main, et il est resté 2 heures avec moi. Et alors il m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée, j'entends quelque chose mais le puits n'est pas encore foré. Il m'a dit ça mot pour mot. Alors je passe mon temps à forer le puits.
Alors imaginez que vous parliez tout à l'heure de la guerre d'Algérie et le retour, comme pour beaucoup, ce retour a signifié aussi beaucoup d'incompréhension de ceux qui étaient là.
Oui, sorte de coupure, de cassure. Oui. Et c'est effectivement le moment où je crois que j'ai vraiment commencé à écrire des poèmes, que je continue d'appeler des poèmes, qui tiennent le coup.
Dans le mi-temps du lit, la rivière est profonde, la rivière est profonde. Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du roi pourraient y boire ensemble. Pourrait y boire ensemble. Nous y serions heureux, nous y serions heureux, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Il vécurent longtemps. Ils vécurent longtemps dans un bonheur suprême, dans un bonheur suprême.
Aux marches du palais, Yves Montand, Henri Méchonic.
Oui, j'ai choisi ce petit morceau parce que, et particulièrement ce passage-là dans le mi-temps du lit.
Oui, on l'a bien calé, oui, hein, parce que c'est ce passage-là que vous vouliez entendre.
Oui, parce que je le trouve très beau et il est un des rares moments où la poésie et la chanson font un. Il n'y a pas deux poèmes pareils, y compris chez Hugo, il n'y a pas deux poèmes identiques. Et puis il y a la chanson, et un des clichés culturels, c'est de les confondre. Ce qui fait qu'il y a des années, chez Segers, il y avait la collection des poètes d'aujourd'hui, et on y trouvait Jacques Brel et Georges Brassens. Et j'aime beaucoup Jacques Brel et Georges Brassens, mais c'est de la chanson, et ce n'est pas de la poésie. La différence n'est pas dans l'opposition entre le populaire et le savant. Et d'abord, il y a aussi des poètes qui ont fait ce qu'ils ont appelé eux-mêmes des chansons. Alors, il y en a chez Hugo. Le brouillage est encore aggravé par le fait que des gens comme Aragon ont été mis en musique par Ferré et chanté. Ça fait beaucoup pour leur succès populaire. Mais je ne crois vraiment pas que la différence soit entre le populaire et le savant. Et je dirais d'une certaine façon, la preuve, c'est Nerval, par exemple. Nerval, qui est un des premiers à recueillir des chansons populaires dans le Valois. Reste que c'est pas par hasard que, à partir de Baudelaire, la poésie se détache du vers, qu'il y a d'abord des poèmes en prose, ensuite des vers libres, qui ne sont pas des vers boiteux, des mauvais vers, à ne pas confondre donc avec ce qu'on a appelé le prosaïsme. Et puis, c'est vrai que les chansons se tiennent à la rime, ont besoin de la rime, beaucoup plus que la poésie moderne. Alors, une certaine poésie contemporaine s'est remise à la rime, et a tendance même à faire du mirliton. Mais ça, c'est un phénomène contemporain qu'il faudrait analyser dans l'ensemble des problèmes de la poésie française contemporaine. Cela dit, il y a des choses merveilleuses dans la chanson et il y a des choses merveilleuses dans la poésie. Mais ce n'est pas la même chose.
Alors, Henri Mouchnik, justement, revenons au poète que vous aimez lire, que vous avez aimé lire dans ces années d'apprentissage. Et il y a par exemple Apollinaire.
Oui, Apollinaire, c'est plus tard. Dans les années 50, c'est surtout des surréalistes et des dadaïstes que je lisais. À part des lectures comme celle de Peggy, de Nerval, et alors surtout la poésie du XVIe siècle. Morisseve, Sponde, ça c'est des choses que j'ai beaucoup lues et que je continue de lire, mais que j'ai découvertes dans ces années-là. Il y a des rapports à la poésie, il y a aussi des rapports à la peinture qui ont beaucoup compté pour moi. Dans mon adolescence, quelqu'un que j'admirais énormément, c'était le peintre Michons, qui était le cousin germain de mon père, mais étant de l'âge de mon père, comme il faisait sauter sur ses genoux, je l'ai toujours appelé mon oncle. Et Michons, c'est le même nom que le mien. Mais il l'a abrégé autrement. Michons, qui était arrivé à Paris en 22, avant mon père, était un ami et un compagnon des surréalistes. Et ce que j'ai énormément aimé, qui m'a beaucoup impressionné quand j'avais environ 20 ans et après, c'est que c'était un solitaire qui, alors du point de vue médiatique, a très peu réussi. Mais qui pour moi est un grand peintre. Quand il est mort en 82, j'ai écrit un article pour Le Monde et que je commençais « Un grand peintre vient de mourir ». Et évidemment, le journal Le Monde a supprimé Un grand peintre, parce que pour la bonne raison qu'il n'en avait pas parlé jusque-là, ça pouvait pas être un grand peintre. Ça, c'est tout le problème de la médiatisation. Ou de la médiocrisation, c'est très souvent très proche. Alors donc, il y a là un rapport à la peinture. Ça commençait à Michons et ça se poursuit avec Soulage. Vous voyez que c'est...
avec qui vous avez publié un livre d'entretien, non ?
C'était prévu pour être un livre d'entretien. J'ai rencontré Pierre Soulage en 1979. On était là dans le public. À écouter une table ronde à Beaubourg, et puis après, on va le trouver. Et en fait, je me suis vite aperçu que le hasard, le bonheur, faisait qu'il connaissait certains de mes livres. Et donc, depuis, on est devenus amis. Et c'était un projet d'entretien qui n'a pas pu aboutir, parce que Soulage fait avant tout de la peinture, il intervient beaucoup dans des entretiens, mais ça n'a pas pu se faire parce que c'était trop important comme échelle. C'est pas simplement un entretien dans un journal. Et donc, j'ai appelé ce livre « Le rythme et la lumière » avec Pierre Soulage. Ce qu'il y avait de lui, de l'entretien, n'a pas paru, et j'ai remplacé ça en rythmant le livre par des bribes d'entretien de lui ont été publiées. Et donc c'est vrai que c'est un rapport, la poésie pour moi, un rapport aussi bien à la peinture et à l'art en général qu'un rapport aux autres poèmes. Mais Apollinaire, c'est quelque chose que je dois à l'époque de mes études, là, plus tard, au fait que j'ai été à partir de 1963 assistant à l'université de Lille de Jean-Claude Chevalier. Et comme les assistants faisaient les travaux pratiques des enseignants, et que Jean-Claude Chevalier, par bonheur, faisait une thèse sur Apollinaire, une thèse complémentaire sur Apollinaire, il m'a lancé dans Apollinaire. Et je n'en suis pas sorti non plus. C'est un bonheur, Apollinaire, oui, pour moi, oui.
Vous voulez bien nous lire le poème d'Apollinaire?
Par exemple, dans Calligramme, Tourbillon de mouches. Un cavalier va dans la plaine, la jeune fille pense à lui, et cette flotte à Mytilène, Le fil de fer est là qui luit, comme il cueillait la rose ardente. Leurs yeux, tout à coup, ont fleuri. Mais quel soleil, la bouche errante, à qui la bouche avait souri. Et ça m'a toujours tellement paru un poème incompréhensible que c'est certainement un des poèmes qui m'ont le plus fait réfléchir sur la poésie et fait comprendre ce que c'est que comprendre un poème ou travailler à comprendre un poème, parce que un poème n'est que le début de son propre infini. Et d'ailleurs, j'en ai fait du coup une étude que j'avais appelée prosodie poème du poème, et qui a paru, c'est pas par hasard, dans un volume collectif consacré à Jean-Claude Chevalier, Histoire et grammaire du sens, chez Armand Collin en 96, pour comprendre que ce n'est pas ce que dit un poème qui est non pas le dernier mot ni le premier, mais qui est le plus important, c'est ce que fait un poème. Et j'avais deux raisons pour faire ce travail, pour m'y enfoncer. C'est que dans Calligramme, ce poème est suivi d'un autre petit poème, L'adieu du cavalier, qui commence par un vers qui a beaucoup contrarié les surréalistes. Ah Dieu, que la guerre est jolie. Je vais le lire aussi. Hein. Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs, cette bague, je l'ai polie, le vent se mêle à vos soupirs. Adieu, voici le bout de sel, il disparut dans un tournant et mourut là-bas, tandis qu'elle riait au destin surprenant. Et pensant à... aux contrariétés qu'éprouvaient les surréalistes, je me disais, est-ce qu'il est possible que ce vers, le premier, « Ah, Dieu, que la guerre est jolie », dise bêtement tout ce qu'il a l'air de dire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de lire un poème que celle de la lecture de son énoncé? Et donc j'ai repris tout Apollinaire, aussi bien les contes du poète assassiné, l'enchanteur pourrissant, pour arriver à tenir ensemble Tourbillon de mouches et l'adieu du cavalier. Et l'adieu du cavalier se termine par « Il mourut là-bas tandis qu'elle riait au destin surprenant ». Et le travail d'ensemble a tellement bouleversé les apparences que... En fait, c'est toute la mythologie personnelle que s'invente Apollinaire, là, et qui est celle du mal-aimé, mais pas du mal-aimant, mais du mal-aimé. Et donc, ce premier vers, « Adieu que la guerre est jolie », qu'on a pu lire comme, un bonheur troupier, hein, comme on parle d'humour du comique troupier, il prend son sens par la fin et mourut là-bas, c'est... l'homme qui meurt, tandis qu'elle riait au destin surprenant. Et on retrouve le poète assassiné, tristouze, trépignait de joie pendant qu'on assassine Cronia Mental. Et dans l'enchanteur pourrissant, il y a les éternités différentes de l'homme et de la femme. Et alors les mouches, parce qu'il n'y a pas de mouches dans ce petit poème de 2-4-1, ça se lit aussi à travers le musicien de Saint-Méry, des millions de mouches éventaient une splendeur. Si bien que finalement, pour bousculer une idée reçue de plus, celle qui... mais il y en a une vraie montagne sainte, il y a l'opposition entre le vers et la prose, qui a l'air de dire quelque chose de concret et de précis. Et c'est pas toujours vrai. La preuve, c'est que il y a chez les Latins et déjà chez les orateurs attiques grecs une métrique de prose. Là, non seulement l'opposition entre le vers et la poésie est un peu branlante, bien qu'elle ait l'air d'être sûre, mais quand elle glisse vers l'opposition entre la poésie et la prose, non plus le vers opposé à la prose, mais la poésie opposée à la prose, alors là, on est dans une horreur culturelle, et ce qui fait que, autre court-circuit, je remonte à Aristote, parce que Aristote savait déjà ce que certains poètes français contemporains ne veulent pas savoir, que les vers ne sont pas la poésie.
Henri Méchonique, vous disiez tout à l'heure le poème, un poème n'est pas tant ou n'est pas seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il fait.
Ouais.
Et donc la traduction, le travail de traduction, qui est une grande partie, enfin une très grande partie de votre vie, le travail de traduction serait de faire dans une autre langue ce que le poème fait dans sa langue d'origine.
C'est certainement la visée poétique, oui. C'est-à-dire que traduire, c'est plusieurs choses en même temps. C'est un rapport entre deux langues qui est souvent gommé parce qu'il est noyé, comme on noie le poisson, dans l'idée de comprendre, simplement. Comme quand on dit que telle pensée... qu'on traduit sa pensée. Alors, un certain nombre de philosophes se complaisent beaucoup à noyer. C'est déjà l'homme de lettres... L'apostrophe avec un grand E, Heidegger, c'est le théologien en chef du XXe siècle, qui noie traduire dans comprendre. Et un certain nombre en sont restés là. Mais si on revient à l'activité connue concrètement et apparemment banalement, qu'on appelle traduire d'une langue dans une autre, il y a un aspect culturel, bien sûr, et c'est vrai que les traducteurs sont des passeurs. Et c'est là qu'on retrouve le passeur du Styx.
J'aimerais bien, voilà, je vous interromps juste un instant, parce que j'aimerais bien lire.
Ah oui, oui.
Vous citez, les traductions courantes sont des traductions qui effacent tout ce qui est du continu dans le langage. Tout ce qui est de l'ordre du rythme, du poème, ne retiennent que le sens des mots. Et en même temps, le traducteur adore se faire passer pour un passeur, en quoi il confond Saint-Jérôme et Caron. Saint-Jérôme est le patron des traducteurs, mais Caron aussi est un passeur, c'est lui qui passe les âmes sur le Styx. Et si on ne traduit que le sens des mots, eh bien... on est exactement dans la séparation de la forme et du contenu, de l'âme et du corps. Autrement dit, ce qu'on a fait passer de l'autre côté, ce que les spécialistes de traduction appellent la langue d'arrivée par rapport à la langue de départ, c'est du cadavre. C'est le cadavre d'un poème, éventuellement. Donc, autrement dit, vouloir mettre l'accent, enfin, privilégier le sens, le contenu, dans une traduction, se fait toujours aux dépens de quelque chose que vous appelez le continu et qui est à la fois le rythme, le mouvement.
Ce n'est pas simple, c'est certain, d'autant plus que le combat ici du poème contre le signe, c'est un combat contre, on peut dire, pratiquement 2500 ans de pensée du langage, où le savoir est à la fois renforcé par le bon sens, la familiarité, et même par ce qu'on appelle les sciences du langage. Donc aussi bien la science que la familiarité ont l'air de nous enfoncer encore plus dans cette apparente représentation du bon sens, du langage. Il y a de la forme, il y a du contenu, il y a du son, il y a du sens, comme il y a des langues différentes, comme il y a des phrases différentes. Et c'est vrai que c'est le règne du discontinu. Le problème est donc de savoir... s'il est possible, pourquoi et comment, s'il est possible de sortir de cette représentation du langage. Le paradoxe, c'est que c'est précisément l'acte de traduire et l'histoire des pratiques de la traduction qui peut nous permettre de faire en sorte qu'on conceptualise, qu'on comprenne qu'il y a une autre manière de comprendre le langage qu'à travers ce que les linguistes appellent le signe, c'est-à-dire la dichotomie du son, du sens ou de la forme et du contenu. Alors, Que serait le continu? Ben, le continu, c'est effectivement plusieurs choses. C'est un continu du corps au langage, et pour moi, un poème, c'est ce qu'un corps fait au langage. Et là, j'ai aussi beaucoup appris dans Spinoza. Et alors, qu'est-ce que c'est que le corps dans le langage? Parce que la psychanalyse nous a beaucoup fait entendre qu'il est question du corps. Oui, mais c'est toujours, à mon sens, métaphorique. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler le corps dans le langage? Ce n'est pas de la chair. Et certains philosophes m'amusent beaucoup quand ils emploient, par exemple, 8 fois sur une page le mot d'incarnation. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on est dans une civilisation chrétienne depuis 18 siècles. Donc c'est pas de la chair, c'est pas de la viande. Je ne peux pas faire comme le marchand de Venise, qui n'était pas un juif de Venise mais un chrétien de Rome. La réalité historique aussi, entre parenthèses, c'est celle-là. Je ne peux pas demander une livre de chair, non. C'est pas de la viande qu'il y a dans un poème. C'est pas des neurones non plus. À une conférence internationale à Berlin, j'ai dit une fois qu'il y avait pas de neurones dans un poème, et on m'a rapporté que 2 Américains inquiets, contrariés, s'étaient rapprochés l'un de l'autre et disaient « S'il y a quand même des neurones dans un poème. Ben, » je suis désolé, il y a pas de neurones dans un poème, et il y a pas de poème dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a des choses électriques, chimiques, etc. Moi, j'y connais rien, je ne suis pas, et je suis pas biologiste. Et du coup, j'ai beaucoup d'inquiétude pour ce qu'on appelle les sciences cognitives, qui font des rapprochements un peu rapides entre la biologie et la théorie du langage. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps? Je ne vois pas d'autres représentants possibles pour parler langage du corps dans le langage que le rythme, non pas défini comme opposition d'un temps fort et d'un temps faible, mais défini comme le mouvement de la parole dans le langage. Et là, il y a aussi une histoire de cette pensée à travers Marcel Jouss. Et un des premiers à avoir dit ça, d'ailleurs, c'est un poète, c'est Hopkins, le poète anglais de la fin du 19e siècle, Hopkins, qui était un religieux et qui savait l'hébreu, et qui disait à propos du rythme dans la Bible que c'est « the record of speech and writing », l'enregistrement de la parole dans le langage. C'est un de mes points de départ, c'est pas par hasard. Autre point de départ, pour ce qui est du rythme, par exemple dans la manière d'imprimer les livres, donc dans la ponctuation, ça vient de la poésie, donc d'un poète anglais des années 20, qui a compris que la ponctuation du folio de Shakespeare, c'est du théâtre. Autrement dit, il y a une théâtralité dans le langage, et si le rythme est le mouvement de la parole, ça a deux conséquences. Si c'est le mouvement, ce n'est pas du sens seul, mais c'est le sens dans son mouvement. Donc c'est le mouvement qui emporte le sens, c'est-à-dire que ça emporte tous les rythmes, rythme de position, si un mot est en première partie d'une phrase ou en dernière partie d'une phrase, ça n'a pas la même force. Et on redécouvre la notion de force dans le langage.
Traduire, c'est aussi traduire une force.
C'est traduire une force, ce qui est beaucoup plus important que de traduire du sens. Bien sûr qu'il faut traduire le sens qu'il y a à traduire, mais le sens sans sa force, c'est extrêmement faible, si je peux dire. Alors, c'est traduire le sens dans son mouvement, c'est-à-dire tous les rythmes de position, de répétition, de syntaxe, de prosodie. Et ça, c'est un premier continu. Mais comme j'ai repris à Hopkins la notion de parole, si c'est le mouvement qui organise toutes les marques d'une parole, mais une parole, ça suppose un sujet. Et donc, ça déclenche une critique de la notion de sujet. Parce que c'est aussi une tarte à la crème de notre époque, la question du sujet. Ce singulier est très contestable. Moi, j'en connais au moins 12. Et dans les 12, depuis le sujet philosophique jusqu'au sujet freudien, il n'y a pas celui qu'il faut pour faire un poème. Et pour lire un poème, c'est ce que j'appelle le sujet du poème. Le sujet du poème n'est pas l'individu, vous pouvez lui taper sur l'épaule ou sur le ventre. Non, c'est pas l'individu, c'est pas le sujet psychologique qui a des émotions. Le sujet du poème, c'est la manière dont tout ce mouvement prosodique, syntaxique et rythmique s'inscrit dans le langage. Et alors là, eh bien, je retombe sur une formule de Peggy qui est merveilleuse. Peggy qui dit un mot, je cite, c'est dans Victor-Marie Contugo, et qui a aussi été ma Bible, Victor-Marie Contugo et Clio de Peggy. Et Peggy dit dans Victor-Marie Contugo, il parle de strophe lançante, il dit « Un mot n'est pas le même dans un écrivain et dans un autre. L'un se l'arrache du ventre, l'autre le tire de la poche de son par-dessus. » Et il ajoute, ça c'est dans un autre texte, un nouveau théologien, « Tout ce que j'écris est signé. Quand même il n'y aurait point la signature de mon nom au bas de la dernière ligne, la signature est partout. C'est signé dans le tissu même. Il n'y a pas un fil du texte qui ne soit signé. » Alors là, je suis émerveillé parce que ce que je travaille à penser est déjà là. Voilà, c'est ça.
Ah, ça,
c'est
le continu.
Mais c'est pas fini, parce que ce continu du sujet, si c'est un sujet du poème, c'est l'invention d'une historicité, et ça déclenche une autre réaction qui est aussi très importante et qui fait partie de ce que j'appelle le continu. C'est un continu langage, poème, éthique et politique. Ce qui fait que pour moi, un poème est d'abord un acte éthique avant. Et il faut que ça soit un acte éthique, c'est-à-dire un acte qui transforme l'éthique par le langage pour être un acte poétique.
Harry Mechelnik, on arrive vers la fin de cette émission. Et alors, je vais vous poser une question qu'on a dû vous poser mille fois. Mais comment avez-vous décidé, à un moment donné, d'entrer dans cette galère, je vous cite, qu'est la traduction de la Bible? Qu'est-ce qui vous a incité à entreprendre ce travail qui n'est pas terminé, mais qui...
Non, qui est en cours.
Qui est en cours. Mais...
Et là, le bonheur, les bonheurs de la vie font que j'ai une commande. J'ai publié les premières traductions chez Gallimard. Elles ont été rassemblées dans un premier volume qui s'intitulait Les Cinq Rouleaux, en 1970. C'est une expression que je reprenais à la tradition et qui regroupe des textes que la tradition hébraïque appelle ainsi, mais parce qu'ils sont lus à des fêtes. Et donc, les cinq rouleaux, c'est, pour employer l'appellation traditionnelle, le cantique des cantiques, que j'ai appelé le chant des chants, Ruth, les lamentations que j'ai redénommées comme, ou les lamentations, Esther et l'Ecclésiaste à qui j'ai donné pour titre Parole du sage. Et qui a aussi déclenché, comme je traduis en essayant de faire entendre la théâtralité du langage, l'oralité du langage, eh bien cette traduction a aussi produit des rencontres qui ont énormément compté pour moi du point de vue des affinités électives. C'est il y a très longtemps, ça remonte à 71 par là, c'est la rencontre avec Antoine Vitez, qui un jour m'a écrit parce qu'il avait lu mes premiers livres qui venaient de sortir en 70. Et après Vitez, ça a été Claude Régis qui a mis en scène et
Parole
mis en
sage.
Voix Parole du sage, et dont le prochain projet est de mettre en scène aussi une sélection de ma traduction des psaumes que j'ai appelé Gloire. Et donc il y a la commande sociale. Mayakovsky disait il faut la commande sociale. Ma première commande était purement interne. Mais ensuite, je pense que j'ai toujours eu peur de traduire toute la Bible. Et d'ailleurs, si j'ai commencé par les cinq rouleaux, c'est parce que j'avais peur de commencer par la Genèse. Ça m'impressionnait trop. Ce qui ne veut pas dire que ces textes-là, le Chant des Chants et d'autres, sont plus faciles. Mais je pense que si j'ai commencé par le Chant des Chants, c'est aussi parce qu'il y a pour moi un lien de vie, de mon expérience de vie, entre ce que je vis, les poèmes que j'écris et la manière dont j'ai pu traduire le Chant des Chants. J'aurais pas traduit comme j'ai traduit si j'écrivais pas en même temps les poèmes que j'écrivais en même temps, mais qui ont paru plus tard. Le premier livre de poèmes, c'était en 72 chez Gallimard, Dédicace Proverbe. Alors, Je suis incapable de répondre à votre question. Pourquoi je me suis lancé dans cette galère? Et oui, parce que je n'ai jamais eu d'éducation religieuse. Ce n'est pas pour moi un texte religieux. Et je ne suis pas un religieux. Mais j'ai appris des choses. C'est pas vraiment une réponse. Je crois que les choses vraiment très très fortes dans une vie n'ont pas d'explication. Vous ne pouvez pas expliquer, il n'y a pas une raison pour laquelle vous aimez la personne que vous aimez. Je sais pourquoi je choisis cette chemise, mais on est choisi par ce qu'on aime. Donc c'est plus c'est fort, moins on sait pourquoi. Et d'ailleurs, un célèbre mystique allemand du XVIIe siècle a dit « La rose est sans pourquoi ». Un poème est sans pourquoi aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi je traduis la Bible, mais ça me tient autant que j'y tiens. Ça me tient très fort. Pour moi, c'est le poème que je traduis dans la Bible. C'est pas le religieux. Et d'ailleurs, j'y ai appris, en traduisant particulièrement la Genèse, la différence, une différence que ne font pas les religieux entre le sacré, le divin et le religieux.
Harry Mechanic, on va terminer par le commencement.
Oui, c'est
et,
ça. C'est
et je vais vous demander de lire justement le tout début.
Eh bien voilà, c'est normal, il faut recommencer.
De la Genèse, dans votre traduction, au
oui,
commencement.
Oui, le monde est mal fait, il faut le recommencer, oui. Au commencement que Dieu a créé le ciel et la terre était vaine et vide, et l'ombre sur la face du gouffre, et le souffle de Dieu couve sur la face de l'eau. Et Dieu a dit qu'il y ait la lumière, et il y a eu la lumière. Et Dieu a vu la lumière, c'est bien. Et Dieu a séparé entre la lumière et entre l'ombre. Et Dieu a appelé la lumière jour, et l'ombre, il a appelé nuit, et il y a eu un soir, et il y a eu un matin, jour 1.
Merci, Harry Mechanic.
C'était Affinités électives par Francesca Isidori, réalisation Brigitte Mazire. Francesca Isidori recevait Henri Mechanic le 16 septembre 2004. Henri Mechanic qui vient de disparaître le 8 avril 2009.